Après une longue campagne électorale, Monsieur le maire Étienne Faucon est de retour dans son petit village d'Islande. Il y retrouve sa famille et notamment son fils avec qui il part cueillir les champignons en forêt le dimanche. Et justement, un dimanche, après avoir fait une Mufasa à son gamin, c'est-à-dire après lui avoir dit que ce royaume lui reviendra, blablabla, etc., bim ! Il nous fait une Boromir. Une flèche, deux flèches, trois flèches, un genou à terre, un mot à son fils lui ordonnant de fuir, et puis pouf, le roi est mort, Mufasa est mort. Mais qui dit Mufasa dit oncle Scar. Et ici Scar, c'est l'oncle Fjolnir, ce traître. Dès lors, le petit Simba, nommé ici Hamlet, qui a assisté à tout ça, sera investi d'un devoir de vengeance. Sauver sa mère, venger son père, tuer son oncle. S'entame alors une aventure qui oscillera entre Viking, Arya Stark, Radagast, le Lédamant Bjorg, une Valkyrie qui sort de l'orthodontiste, God of War, Anya la Mouette, une mère agitée, un Valhalla arraché, la montagne du destin, Star Wars, bref, toute une histoire, l'histoire de la vie, l'histoire éternelle. Voilà, c'était l'histoire que l'on s'était imaginée dans l'épisode 87. Mais au final, qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Et nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de The Northman. DJ,
kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de The Northman de Robert Eggers. Après vous avoir fait sa BA, après s'être fait des films autour de sa bande-annonce dans l'épisode précédent, nous allons revenir en critique et en avis sur ce film. Mais laissez-moi d'abord vous présenter ma team, souvenez-vous, ma team de Vikings avec qui nous sommes partis à la conquête des églises d'Angleterre. Kevin est là, Kevin notre viking de service.
Eric Leroux, non, j'étais qui
je sais plus qui tu étais.
J'étais un viking en tout cas.
Le rouge quelque chose. Clémence, la guerre tarte.
Ouais, tu veux un beignet
dans ta gueule. Et un autre viking qui était pas là avec nous pour la BA mais qui est monté dans le drakkar entre temps.
Ah oui, bonjour, je nageais à côté, puis j'ai oui. De la lumière, je suis monté.
Erwan, un petit viking perdu, un petit cri de guerre peut-être.
Ouais.
On va vite le jeter par dessus bord.
Il a des maux d'estomac.
Des frites.
C'est le viking du Nord.
Ouais. Le viking de Dunkerque.
On va vous parler aujourd'hui évidemment de The Northman de Robert Eggers qu'on a vu en salle. On va revenir en avis autour de ça. Mais avant toute chose, à combien de spoils on se situe ?
Oh bah là.
Bah normalement c'est le calculateur qui le fait, mais il est un peu en galère avec calculateur. Je vous le raconterai dans le prochain épisode, mais il est un peu en rade.
Mais quel suspense.
Il est un peu en rade, j'ai dû l'empêcher le réparateur. Donc c'est un peu moi qui vais m'en occuper. Vous inquiétez pas, il va bien. Il va très très bien.
Encore,
il va très très bien, mais oui, il a un peu pris la flotte. Plus de détails dans l'épisode suivant. Du coup, on spoil où est-ce qu'on va se situer ?
Oh, 100%.
100%, on va tout dire. Non, du tout.
Je crois qu'on va vite enlever cette fonctionnalité. À chaque fois, on est à 100%. Oui, on va aller à 100% parce que donc, bon.
De toute façon, vous avez eu le Roi Lion, vous avez tout eu. Hein.
C'est un peu ça. Vous avez eu Hamlet, vous avez eu le Roi Lion. Écoutez, on y est. Hein. Mm. On y est, sauf que les lions ici, c'est des Vikings.
Vous avez eu ce. Ouais.
Donc, on sera à 100%. Et qui résumera le film ?
Ah, bah ça.
La roue de la chance.
Et c'est Erwan.
Ah non, oh là, quelle surprise. Oh là.
Erwan qui va nous résumer le film.
Pas de chance.
Résume-nous le film. Fais-toi plaisir.
Alors, c'est l'histoire
de la vie. L'histoire éternelle.
C'est l'histoire de la vie.
L'histoire d'un viking.
Oh putain, très bon. C'est l'histoire de... Comment il s'appelle déjà ?
Hamlet.
Hamlet.
Ah oui, bah oui, tu es con du coup. Hamlet au fromage.
Sans H.
oui, donc c'est pas Hamlet, c'est... Hamlet
du fromage,
qui est donc petit garçon très heureux. Son papa rentre à la maison. Oui, papa rentre à la maison.
Pardon. Des petits clairs.
Des petits clairs. Bah ouais, c'est dès que à chaque fois que je gagne la roue de la chance, ça me. Donc papa rentre à la maison et puis en fait c'était la dernière fois que papa rentrait à la maison parce que malheureusement papa se fait tuer par son frère. Ce qui arrive très souvent, à regarder un peu les faits divers, hein, c'est pas si... Pas si...
On se souviendra de l'histoire du petit Grégory.
C'est ça. C'était son frère depuis le début.
Et oui, le corbeau.
Le corbeau.
Le corbeau.
On savait.
Ah, le roi corbeau. Et ben voilà. Donc, frère tue frère. Tac, tac. Ok, ça c'est bon. Du coup, Hamlet, Hamlet s'enfuit. Hamlet prend sa petite barque. Hamlet rejoint d'autres vikings. Et en fait, après, du coup, bah, c'est toute l'histoire. Il faut que j'aille jusqu'au bout ou pas ? Je sais plus.
Bah, tu peux résumer tout dans l'ensemble et pas faire chaque scène. Hein. Si tu veux.
En gros, Hamlet se fait une nouvelle vie. Donc, des années passent et des années passent. Hamlet est un gros bonhomme avec des gros biscottos.
Bien sûr.
Et Hamlet, du coup, s'est préparé à une seule chose. Car son père lui avait dit le jour où je meurs. C'est pratique, il lui avait dit la veille. Ça arrive souvent dans les films épiques. Du coup, il lui avait dit si on me tue, il faudra que tu me venges. Du coup, il se fait tuer au petit matin. Il part, 17 ans après. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retourner se venger sur une petite île qui s'appelle l'Islande. Très petite.
Très, très petite.
Ouais. Mais bonne équipe de foot.
Ah où ?
Le clapping.
Ah où ? Je suis en train de clapper là. À l'audio, ça marche pas. Ça marche pas.
Et donc, il se retrouve sur ce petit caillou avec donc, le tueur de son père et sa mère qui s'est remariée avec son oncle. C'est un peu d'Inkerker.
Qui est le tueur de son père.
Un peu dans le nord. Hein. Et du coup, il se fait passer pour un esclave.
Pour intégrer,
intégrer la maison, ferme. Quoi. Oui, ouais. Et en fait, une ferme. Parce qu'en fait, le mec a fait tout ça pour finir dans une ferme. Donc, ça ne servira à rien. Et du coup, dans cette ferme, il va s'infiltrer et leur faire passer. C'est un peu. Comment ça s'appelle
Le petit Grégory.
Non.
La ferme célébrité.
Non, avec Michael Culkin.
Massimo Gardia. Merde.
Starship Troopers.
Mais non.
Je vois pas où tu veux en venir en fait. Je suis perdu.
Non, Michael Culkin.
Maman, j'ai raté l'avion.
C'est un peu Maman, j'ai raté l'avion en Islande en fait.
Oui.
Sauf que c'est le méchant Kevin quoi.
C'est le très méchant Kevin et du coup il va leur en faire voir de toutes les couleurs et des vertes et des pas mûres et surtout des rouges quoi.
Waouh.
Et voilà. Et donc du coup bon après
c'est vraiment bien résumé.
Bah dans les grosses lignes, c'est un peu ça oui, bah attendez.
Ouais ouais.
Voilà, puis ça du coup ça tape beaucoup.
Ah, j'ai oublié de dire à la fin ils envoient l'anneau dans la lave et puis
tout la paix revient
au milieu.
Et Aragorn
se marie avec
j'étais là il y a 3000 ans Gandalf.
Ouais. Et après ils vont sur l'île des elfes et c'est super.
Quand le cœur des hommes a failli, bon j'arrête.
Un très beau film. Un très beau film, ça on va le savoir tout de suite déjà on va comparer la BA avec son produit final. Hein, ça s'appelle Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Avant de basculer sur notre avis autour du film, on va d'abord comparer la BA, nous, qu'on s'est fait dans l'épisode précédent, avec le film. Alors, cette BA, est-ce qu'elle nous a vendu le film ? Est-ce que nous avons dû, en fait, ce qu'on a vu ? Douille ou pas douille, tour de table, bah Erwan, t'es bien lancé.
Écoute, pour moi, c'est une bonne grosse douille.
une bonne grosse douille, une bonne moelleuse, douille, craquante.
Comme on n'en fait plus.
Crémeuse. Hein,
bien garnie.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que je m'attendais à un film un peu plus épique, un peu plus aventureux et un peu plus. Qui nous a un peu plus voyagé. Et en fait, cette BA m'a vendu le premier tiers du film. Mais qui faisait plus de la moitié du film et du coup les deux tiers du film devaient faire la fin du film et en fait c'est l'inverse qui s'est passé.
Ça là, bah, on
j'ai rien compris.
En vrai j'ai compris moi, je sais pas, on est connecté gros.
Ouais, bah, ouais. En gros bref, tout ça pour dire que toutes les deux tiers du film je m'attendais que ce soit un peu plus court et en fait j'étais un voilà, c'était plus long que ce que
la BA t'a vendu
un truc plus épique et plus dynamique surtout.
Et voilà. Ce n'était pas le cas. Clémence.
Oui, pour moi aussi c'est une douille parce que j'ai pas retrouvé tout ce que j'attendais déjà de la part du réal, mais même par rapport à ce qui est montré dans la BA, c'est vrai que comme le dit Erwan, il y a peut-être un côté épique qui était promis dans la BA avec notamment un espèce de binôme Hamlet et la sorcière, enfin la fille avec
Olga.
Qui il était, Olga. Et je trouve que c'est hyper décevant à ce niveau. Enfin, je développerai en parlant plus longuement du film, mais ouais, je trouve que la BA, elle survend pas mal le film et c'est un peu une déception, en vérité.
Aïe, je pense que ça va être la même réponse. Kevin, douille ou pas douille ?
Écoutez, c'est une douille aussi. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, moi je m'attendais à ce que ce soit une douille, mais plus dans le sens où la BA était très épique action. Je m'attendais à quelque chose de plus mystico. Mystico, on s'envole dans les strates du psychisme. Ce qui est, du symbolisme, parlons. Bah, ce qui est un peu le cas, mais je m'attendais à ce que ce soit maîtrisé. Enfin, j'ai l'impression que de la BA ressortait une espèce de maîtrise, une espèce d'intensité qui, même si, qui pouvait ressortir en dehors de l'action. Et le problème, c'est que c'est pas le cas. Je trouve que le film est malheureusement assez déséquilibré. Il y a un gros ventre mou. Donc, ouais, c'est une douille.
Ventre mou, t'as vu la dose d'ado ?
Non, pas de Skarsgård, il est magnifique.
C'est pas bon, ça. Hein.
Il a un ventre d'acier. Hein,
c'est loin d'être bon. Mou.
Et toi, Romain, douille ou
pas écoutez, douille, les amis, unanimité sur la douille.
Ah là là.
Ouais. Mais ça, on l'avait un peu débunk, nous.
Coup dur pour The Northman.
Coup dur pour The Northman. Oui, parce qu'on l'avait un peu débunk dans notre épisode BA. C'est-à-dire qu'on avait capté que ce film, qui est distribué par Universal et par d'autres boîtes qui ont fait déjà d'autres gros films, peut-être était dirigé pour attirer un certain public, c'est-à-dire le public qui kiffe les Vikings de Netflix, parce que les Vikings sont très à la mode. Et du coup, cette BA a été dirigée vachement dans ce sens-là. Ça, on l'avait un peu capté, mais c'est vrai que du coup, douille, parce qu'on le connaît, le cinéma de Robert Eggers, il a tendance à partir un peu en steak, quoi, hein, dans son cinéma. C'est pas déplaisant, en plus, hein, c'est vraiment, pour le coup, ça sert bien la mise en scène, mais là, vraiment, c'est vrai qu'on voit un peu toutes les scènes d'action principales qui sont dans la BA, qui vont vite être montrées dans le film, et le reste est un film, comment dire,
contemplatif.
Ouais, plus que contemplatif, même parfois trop contemplatif, parfois peut-être un peu trop. C'est son troisième film, donc j'ai pas envie de dire qu'il se caricature. Ça, on va rentrer dans les critiques du coup, mais oui, c'était une BA du coup qui était vachement orientée action blockbuster, alors que le film est pas du tout conçu en étant un gros blockbuster. Moi, déjà pour témoignage, j'avais devant moi dans la salle une bande de potes. Je sais pas, à peu près, je sais pas, 20, 25, 26 ans, qui étaient tous là venus en mode popcorn et tout, en mode The Northman, c'est genre en mode la version viking de ce Captain America. À la fin du film, le film s'est arrêté, du coup ils ont tout de suite débrief eux entre eux, ils ont fait bah écoute, je m'attendais pas à ça, c'était chelou. C'est un peu ça. C'est un peu ça que vend la BA, quoi. Je pense que si tu connais pas Robert Eggers et si tu connais pas son cinéma, tu vois The Northman, tu t'intéresses pas à qui l'a fait. Tu vas voir The Northman en pensant voir Ragnar Lodbrok et La Guerta et un produit et un produit Netflix, quoi. Et à mon avis, t'es très déçu. Donc ouais, c'est une douille de bande-annonce. Certainement que je sais pas si ça va rendre service au film. On rentre tout de suite.
L'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira. Faudra regarder le box-office. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans nos critiques ? J'ai envie de dire oui.
Eh ben,
oh bah non.
Qui veut lancer ? Parce que moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Là, je suis un peu trop à chaud là pour.
C'est toi qui choisis.
Allez, Kevin, raconte-nous, dis-nous.
Il était une fois Hamlet.
Hamlet en Islande.
Non, bah, film. Moi, je suis un peu mitigé sur ce film. Alors, moi, petite historique, moi, j'ai vu les deux films précédents de Robert Eggers et je suis assez fan de sa patte. J'aime bien son côté halluciné, j'aime bien son grand formalisme, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans ce film-là. Mais je trouve qu'il y a un problème d'équilibre entre sa manière de raconter l'histoire et sa manière de la filmer, bizarrement, c'est que effectivement il y a plein de passages oniriques, mystiques, symboliques, très inspirés de la mythologie nordique, et plein de passages qui sont extrêmement réussis, je trouve, formellement, quoi. Il y a notamment une attaque de village en plan séquence qui est assez ouf, il y a aussi un combat contre un zombie qui est assez impressionnant aussi, mais à côté de ça, je trouve que la narration, elle est un peu aux fraises, parce que Hamlet, enfin The Northman, c'est une histoire, c'est Hamlet, quoi, de Shakespeare, hein, simplement. C'est adapté en fait du même récit danois, je crois, qui a inspiré Shakespeare pour la pièce. Donc je crois que c'est pas exactement 100% Hamlet de Shakespeare, mais en tout cas ça s'en rapproche énormément.
Très shakespearien. Hein,
non, je crois qu'en fait il a adapté le mythe.
Oui, il a adapté le mythe que Shakespeare a adapté aussi de son côté. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Hamlet, enfin etc. De toute façon, c'est la même histoire, c'est le roi lion, tu sais, tous. Et je trouve que voilà, il y a un problème de narration dans le sens où il y a une très grande théâtralité, je trouve, dans la manière dont les personnages sont esquissés, sont développés, la manière dont ils s'expriment. Et je pensais pas, mais ça ne marche pas du tout avec le mysticisme et l'onirisme, je trouve. Je trouve qu'il se crée un déséquilibre où d'un côté, tu as quelque chose qui est assez immersif dans les sens, donc ce côté onirique, ce côté ce côté ouais c'est ça où tu es transporté dans un monde un peu imaginaire dans de la mythologie, tu sais pas où est le vrai, où est le faux, et ce côté vraiment très premier degré, très théâtral de je vais faire ça et je vais venger mes parents, oh, vous allez voir, nanana, ce qui fait que les persos ont pas de substance. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que dans The Lighthouse et dans The Witch, les persos existaient, on y croyait, il y avait vraiment une incarnation, ce qui faisait que le mysticisme marchait bien, parce que tu sentais que c'était quelque chose qui était interne et vécu à l'intérieur par les personnages. Et c'est ça qui me transportait. Alors que là, tout est assez extérieur, et je trouve que ça crée vraiment un vrai déséquilibre, et parfois même un peu d'ennui, et parfois, malheureusement,
ça apporte rien.
Bah non, mais même des fois, ça rend le tout un peu ridicule.
Oui.
Il y a énormément une scène vers la fin du film où Olga et Hamlet se barrent en bateau et où Hamlet fait non, j'ai choisi de me venger, et puis il monte sur le bord du bateau, tu verras, je vais me venger, et après il plonge et il part en crawl.
il fait une brasse coulée.
Bah, je sais pas, ça rend ridicule parce que c'est trop premier degré.
Et puis elle, pendant ce temps, elle invoque les vents et
c'est
du coup,
ça,
ils partent.
C'est trop premier
ça
degré.
Souffle dans les voiles.
Et plein de trucs comme ça, même. Même quand il va te croire sa mère, parce qu'il y a révélation, hein, parce qu'en fait sa mère, en fait, elle était vraiment avec son oncle qui a tué son père, et c'était
son
un complot.
C'est elle qui a demandé.
Et puis à un moment, il lui met l'épée sur l'épaule, elle lui dit mais qu'est-ce que ton épée est longue.
De toute façon, ton père, il avait une petite bite, alors
c'est
ton phallique, oncle, il me fait jouir.
Et je trouve ça dommage parce que. Oui, c'est ça. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a tellement de bonnes idées visuelles, il y a tellement de trucs bien dans le film que. À mon avis, on aurait dû virer carrément tout l'aspect narratif classique. On aurait dû faire un film totalement onirique, totalement sur la forme et sur le symbole. Et ça aurait fait, à mon sens, un meilleur film. Il y a trop de bonnes idées visuelles. T'as le combat avec le zombie qui se finit sur un travelling latéral où tu te rends compte que c'était dans sa tête et que le combat a pas vraiment eu lieu. T'as le plan séquence de l'attaque du village. T'as le combat final en ombre chinoise à la Kagemusha où tu sais pas s'il a été planté ou pas. Enfin, il y a plein d'idées visuelles que je trouve vraiment ouf. Le problème, c'est que le mélange prend pas, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, je suis d'accord. Avec toi, c'est qu'il y a un mélange entre l'onirisme et les scènes d'action et son histoire personnelle, tout ça, sa quête de vengeance et tout. Quête de vengeance qu'on a déjà vu dans d'autres films et tout. On se rend compte que la vengeance finalement mène au drame, à la tragédie. C'est une vraie tragédie viking. Mais voilà, c'est en fait en soi, ça aurait pu être bien, mais je trouve que tu l'as dit à un moment, il y a des longueurs. Moi, il y a des moments où j'étais en mode
Le passage dans la ferme, justement, le moment où il commence à installer sa vengeance, où t'as plein de préparations de paiement qui mettent grave du temps à arriver, où ils sont là à la Conan attachée par la chaîne au cou, et puis t'as Hamlet qui dit à Olga, tu vas voir, moi je vais défoncer leurs os, et puis elle a fait, mais moi je vais briser leurs esprits. Le moment où, avant qu'elle mette les champignons hallucinogènes dans le potage, il y a bien une heure de film.
Ouais,
tu vois. Donc c'est elle a brisé les esprits tard, quoi.
T'as parlé de plan séquence aussi, ça me fait penser à God of War le dernier, parce que God of War le dernier, c'est un plan séquence en fait. Le jeu est en plan séquence, hein, en sens où il n'y a pas de cut. On est vraiment toujours derrière le personnage ou bien la caméra. En fait, il y a jamais de cut. Sauf que dans God of War, voilà, ils ont déjà, c'est toi qui contrôle le personnage, donc tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire, si tu suis linéairement le jeu, c'est quand même l'histoire d'un mec qui a décidé de péter la gueule à tous les dieux et de détruire en fait tout ce qui fait le viking en soi. En mode, oui, bonjour, je m'appelle Odin. Oui, bonjour, je m'appelle Loki. Je m'en bats les couilles, je te claque la gueule, tu vois. Et c'est ce choix-là. Il y a un vrai parti pris, tu vois. C'est Kratos depuis le début. C'est un gros bourrin et tout. Là, le gars, on ne sait pas si c'est un bourrin, si c'est un rêveur, si c'est un mec qui croit en Dieu.
Est-ce qu'il veut se venger? Est-ce qu'il aime sa mère? Est-ce qu'il aime pas sa mère?
Ouais, c'est ça. On sait plus trop. En fait, il change d'avis tout le temps.
Le personnage a plus de substance.
Le truc du bateau, c'est tellement symptomatique. Tout d'un coup, il est là, il est sur son bateau, ils sont prêts à partir à fonder une vie en disant, il a une vision de son arbre généalogique où il voit des jumeaux qui arrivent et tout. Il fait putain, t'es enceinte et tout. Donc génial, on va vivre une vie. Et tout d'un coup, il se lève, il fait non, j'ai oublié, il faut que je venge mon père. Et il repart.
Oui, ça tient pas.
Et en fait, le problème, c'est que tu tiens pas ton spectateur en haleine, quoi, à ce moment-là. Et c'est ça qui perd un peu la substance du film, quoi. C'est dommage.
Mais après, alors moi, je veux bien rebondir parce que, en fait, ce qui m'a. Parce que je suis d'accord avec vous. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le déséquilibre. Et en fait, ce que j'ai à la fois apprécié, c'est. Parce que vous le mentionniez pendant la BA, c'est que le problème du peuple viking, c'est qu'on sait pas vraiment. Finalement, ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein, toute l'histoire viking est vachement, vachement entrecoupée de légendes, de mythes. En fait, si t'écoutes les écrits, t'as l'impression que tous les vikings avaient une vie incroyable. Enfin, et alors qu'en fait, c'est forcément pas le cas, et c'est juste que ça a été écrit des décennies après, enfin des siècles après, par des personnes qui n'avaient pas les mêmes les mêmes croyances. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'était le fait que, bah, en fait, tu mixes la réalité et le mythe, enfin la mythologie, tu vois. Donc en fait, parfois ils ont des pouvoirs, parfois ils ont pas de pouvoirs, parfois ils sont humains, parfois ils sont divins. Et je trouvais ça intéressant, sauf qu'en fait le déséquilibre est total. C'est-à-dire que quand ils sont humains, c'est des grosses merdes, et quand ils sont divins, c'est elle fait avancer des voiles avec trois mots, tu vois.
C'est ça qu'il y a des moments où en fait tu désamorces la partie du zombie où tu dis bon ok c'était dans sa tête. À ce moment-là tu dis attends c'est fantastique ou pas là.
Et en
fait
t'as la Valkyrie aussi.
La Valkyrie
où tu te rends compte que parce que tu l'avais vu en plus dans la BA, donc tu dis tiens une Valkyrie c'est sympa, mais en fait tu te rends compte que
c'était
sa meuf.
C'est pour illustrer le passage de la vie à la mort.
Il était juste bourré quoi.
Mais pareil où les corbeaux, bon en fait les corbeaux qui viennent.
Mais non justement les corbeaux.
Ça c'est elle qui vient le libérer. Enfin tu vois il y a plein de trucs comme ça où ils débunk, et sauf qu'à la fin la meuf elle te fait une des Caraïbes où tout d'un coup elle fait allez let's go les voiles le vent.
Il y a trop de
moments sorcière
parce que,
wesh
regarde, son épée elle marche pas du coup.
Non mais c'est ça
elle
en fait
marche
tu
pas,
sais,
donc
c'est pas trop en fait. Est-ce que t'es ancré dans le réalisme viking ou bien est-ce que tu acceptes
mythe,
une part de fantastique
un peu les deux
c'est
et...
vraiment dommage excuse-moi mais c'est parce que tu me fais penser à un truc avec le symbolisme et tout, mais c'est vraiment dommage qu'ils assument pas à fond le truc là, parce que moi il y avait une scène qui m'avait je sais pas interpellé au moment où ils débarquent dans la ferme, où il se rend compte que sa mère est là. Et en fait tu vois que Nicole Kidman ouvre la fenêtre et il y a plein de corbeaux qui sont là sur la fenêtre,
elle dit dégarpissé.
Et je me dis ça c'est intéressant, tu vois, si
tu
c'est vraiment
hantée par son
c'est ça
envie.
Si c'est vraiment premier degré un truc mystique, c'est cool parce que c'est, enfin le film te fait croire que ils vont prendre cette direction là, c'est fou, mais il va y avoir du fantastique quoi. Et comme il te le débunk, mais te le débunk pas vraiment, bah encore une fois, ça fait un autre déséquilibre.
Ce qui est con, parce que moi, c'était la preuve qu'il me fallait pour me dire, ok, Nicole Kidman est une connasse. Enfin, en gros, la mère est vraiment. Parce que on s'en doutait, on savait pas trop, tu vois. Parce que il y a la scène
dans
très
la BA,
équivoque.
On avait bien capté que ça avait l'air.
Oui, déjà il y a ça, et puis il y a la scène très équivoque au début du film où elle tend, enfin, en gros, elle est en train de sucer l'oncle devant son mec.
Elle fait quoi?
Non,
j'ai pas capté ça. Elle lui tend son verre.
Mais non, c'est qu'elle lui tend son verre. Elle dit, oh, prends le mien, machin.
Ah d'ailleurs, t'as
ah oui, clin d'œil tout ça, et puis le petit coup de langue.
T'as William Dafoe qui lui dit mais dis donc tu mouilles ta coupe pour un autre.
Ah oui c'est vrai, oui exactement, ouais, c'est ça.
Lui il sort après, de nulle part d'ailleurs.
Oh, t'inquiète, quel métal il fait cette coupe.
Et le talon qui fait t'inquiète c'est un pote.
Bah tu vois, tu parlais de William Dafoe, mais il y a aussi toute la scène où il reparle via l'autre chaman alors que, enfin voilà.
Oui
il se passe des trucs
grandiloquents,
parfois il se passe des trucs très ridicules parce que faut le dire, très souvent le personnage est très pathétique. Du coup c'est un peu entre les deux et tu sais point. Très équilibré quoi.
Bah, après moi je reconnais la part barbare et sauvage qu'il a accumulé en fait, hein. C'est devenu un vrai animal.
C'est tout le côté berserker justement qui est très bien montré dans le début du film, et j'espérais que cette partie du film soit un peu plus longue. C'était tout le côté justement parce qu'ils refont tout le rite où du coup tu sais ils se bourrent la gueule, en gros c'était ça, en gros ils se bourraient la gueule. Ils se droguent, ils deviennent complètement fous, ils arrivent tout nus, le zgué galère comme ça pour défoncer des meufs quoi, dans un village. Et en gros, c'est clairement ça. Et ouais, ça montre le côté bestial des Vikings. Et en fait, quand ils faisaient la guerre, ils déconnaient pas les mecs quoi. Enfin...
Même ça, ils l'assument pas jusqu'au bout en fait. Parce que, enfin, je sais pas. J'ai du mal à mettre des mots en fait. Là, c'est trop chaud. Peut-être Clémence, tu peux éclairer
notre
lanterne.
Ouais, non, mais je suis d'accord que c'est un bon exemple, le côté berserker, parce que ça m'a bien plu cette scène d'initiation avec le père, juste avant qu'il se fasse tuer. Et... où ils font comme s'ils étaient des loups et ils se mettent à rugir, à pousser des cris et à être comme des animaux, quoi. Et moi, ça m'intéresse dans le folklore de ça, justement, dans les légendes, ce côté berserker et entrer en rage et être
complètement
bestial.
C'est quoi le côté
bestial.
Berserker? C'est,
les combattants qui vraiment
c'est quand entraient tu rentres dans
une espèce
de transe
et étaient prêts à tout,
en fait,
jusqu'au
animal,
bord de
quoi,
la mort pour... Pour vaincre, quoi.
Ok, d'accord.
Ouais, c'est ça. Les berserkers, c'était les guerriers qui étaient comme habités par une entité extérieure. En fait, ils étaient tellement en rage qu'ils étaient inarrêtables, quoi.
C'est John Wick. C'est un berserker.
Et ça, tu vois, ça m'aurait intéressé que tout le film soit effectivement peut-être... Que le personnage d'Hamlet, en tout cas, puisse être développé par cet angle-là. Mais comme vous dites, c'est vrai qu'il n'est... Il est développé dans plein de sens différents. Et moi, je rejoins complètement Kevin sur mon avis. Ma déception, c'est que... En fait, pour moi, ce qui cloche, c'est absolument pas la réal ou la technique du film, parce que c'est très beau, c'est très bien fait. Même si à force, je commence à m'interroger un peu sur le fait qu'on s'habitue en fait à avoir des si belles images à la Ari Aster, à la Robert Eggers. Ou d'ailleurs, ça fait un peu moins d'effet aussi, je trouve,
pas mal
ce genre de plan.
Aster aussi,
ouais, il y a des plans très midsommariens. Et vraiment, ce qui me déçoit, c'est purement l'écriture, l'histoire, la narration, la manière dont c'est raconté. Et en fait, j'ai essayé d'analyser un peu ça parce que j'arrivais pas trop à comprendre au début, après avoir vu le film. Et je vais peut-être un peu répéter ce que tu disais, Kevin, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une genre de légende tragique, c'est une tragédie, un truc très lié au destin, quelque chose d'annoncé en fait. Son destin est annoncé à l'avance. L'objectif dès le départ, son enjeu, ça sera de venger, tu vois, ce mantra qu'il répète, sauver sa mère, tuer son oncle. Et puis, en plus, il y a une espèce de sorcière, Björk, qui lui annonce exactement les étapes par lesquelles il va devoir passer, récupérer l'épée et tout. Donc en fait, tout est très programmatique, ce qui pour moi... par rapport à l'histoire, déjà, m'ennuie, en fait, parce que c'est ça, on sent tout à fait les longueurs, parce qu'on sait qu'on va devoir aller à tel truc et tout, passer par tel moment.
C'est vrai que tous les moments où, en fait, il peut passer à l'acte, tu sais qu'il va pas passer à l'acte parce qu'il n'est pas sur le volcan du destin.
Oui, enfin voilà,
quoi,
déjà, quelque part, ça casse un peu le suspense. Ouais. Et en plus, surtout, je trouve que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais adoré dans ces précédents films, et je suis comme Kevin pour ça, c'est que dans ces précédents films, en fait, il s'amusait toujours avec les mythes et le folklore, mais pas du tout dans ce côté tragédie écrite. C'était vraiment plus du côté du mystère et de l'horreur. Et ce qui fait qu'en fait, on ne savait jamais, dans The Lighthouse ou dans The Witch, on ne savait jamais quelle serait la prochaine scène du film. On ne savait pas où ça nous menait en tant que spectateur. On ne savait pas jusqu'où, qu'est-ce qui allait se passer. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on était complètement impliqués avec les personnages, parce que les personnages, ils étaient assez... En plus, ils étaient en nombre assez réduit dans chacun de ces films, 2 ou 5. Et en gros, tu étais obligé de t'accrocher à eux et effectivement à leurs ressentis, à leurs émotions, pour avoir une accroche dans cette histoire et comment ça avance au fur et à mesure, parce que tu sais pas jusqu'où ça va aller. Alors que là, je trouve que c'est tout l'inverse, justement, tout est déjà annoncé, tu sais quel va être son destin, tu sais, les personnages sont très fonctionnels, quoi. Tu te doutes que sa mère, c'est une traîtresse, tu te doutes que Olga, il y a un truc qui se développe, un peu histoire d'amour entre eux, et qu'elle dit qu'elle a ce côté un peu sorcière, donc tu sais déjà en quoi elle est caractérisée, et ça ira pas plus loin. Et je trouve ça hyper déceptif, en fait, à ce niveau-là, parce que du coup, comme vous dites, après, ils ont pas de substance, les personnages, ils n'ont aucune nuance, ça ne va pas plus loin que ça. Et je trouve que ça met beaucoup trop de distance. Effectivement, on n'est pas touché, en fait.
Puis on
ne
craint rien
pour
eux.
À faire, quoi.
On craint rien pour eux. Mmh. Et... bon, après, c'est vrai que comme on a vu la BA, bon, tu te dis, bon, tant qu'il n'y a pas la montagne du destin.
Et du coup, à partir de là, bah, même des trucs qui sont un peu propres à Robert Eggers, liés au folklore, par exemple, à un moment, tu vois les esclaves qui font des danses autour du feu, en mode un peu sorcier, un peu comme
partouze,
dans The Witch, quoi, la partouze
ouais,
et tout.
Partouze,
et bah, je trouve que ça devient presque parodique et inutile et un peu vain, parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens, tu vois, émotionnel par rapport à quand tu voyais The Witch et qu'il y avait des trucs qui se passaient un peu bizarres
et
dans
puis,
la forêt.
Il n'y a pas de sens, parce qu'à un moment, t'as le fils du chef qui dit à Skarsgård, oh, t'as été sympa, tu pourras choisir une femme et baiser avec. Et en fait, il y a une partouze dans le champ. Tu dis, bah, pourquoi alors?
Et même, en fait, le folklore viking, ce qui me déçoit, c'est que là où il s'est toujours attaché au folklore très différent dans ses films, je trouve que là, presque, ce film, bah, comme vous dites, c'est le Roi Lion, c'est Hamlet de Shakespeare. En fait, ça pourrait être dans un tout autre contexte. Je trouve que le côté viking n'apporte pas grand-chose. Ça pourrait être transposé à n'importe quelle autre époque.
Mais en fait, c'est dommage parce qu'au départ, il est vachement attaché au côté viking, parce que justement, il y a toute cette première partie où il y a des espèces de rites, machin, et c'est vachement intéressant parce que...
Il y a un respect historique, quand même.
Ouais, ça, c'est un truc que tu connais pas. Ou alors, sinon, t'es justement accroché sur les stéréotypes vikings, et là c'est cool parce que ça t'amène ailleurs et ça te montre que les vikings c'est un peu plus profond que ça. Mais en fait, moi, c'est justement, on parlait de la scène partouze, en fait ça m'a dérangé parce qu'on me dit, putain, on vient me mettre un autre folklore, tu vois, qui est le folklore du coup plus russe, enfin
très russe,
ouais, mais en fait qui est russe, qui était un peu balte, tu vois,
des slaves,
ouais, donc c'était on est des enfants de la forêt, machin, je sais pas quoi, et j'ai envie de dire mais tu viens de nous le mettre comme ça, comme une espèce de petite... Tu nous saupoudres du sucre.
Ouais, c'est ça.
Sauf que moi, je suis en train de manger un kebab, j'ai pas de sucre, tu vois.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont sympas, les maîtres? Parce que du coup, il fait bon, bah, aller dans la forêt, aller faire touche pipi,
non,
ça nous dérange pas.
C'est
ça reste des esclaves quand même, moi. Je sais pas. Moi, je suis esclavagiste. En gros, il n'y a pas de partouze. Hein,
parce qu'il dit, vous pouvez faire la fête. En gros, il dit, vous pouvez faire la fête après, tu vois. C'est en gros, vous avez bien travaillé toute l'année, là on va faire la teuf avec les riches, bah du coup vous pouvez faire la teuf des pauvres, quoi.
Et puis c'est juste après la scène de foot, en fait.
Oui.
De Robo Brawl, là. Ouais.
C'est vrai qu'il y a
la montagne.
Et d'ailleurs,
avec la montagne.
Ce qui n'a pas de sens, parce que la moitié des gens sont chrétiens, donc je vois pas pourquoi ils font tous les partouzes des arbres.
Ce qui n'a pas de sens, c'est qu'ils démontent la montagne. Je suis désolé, moi je veux bien. Il répond même pas. Il y a même pas une vraie petite bagarre et tout ça. Ça c'est un peu décevant, parce que c'est vrai que ça avait tous souvent teasé en disant, ouais, la montagne sera dans The Northman.
Ah, c'était la montagne.
ouais, c'est la montagne de Game of Thrones. Ouais. Il sera là et tout, et en fait, il lui défonce sa race, quoi. Il lui met trois coups de boule, il lui éclate le crâne.
Ouais. Il venge Oberyn, c'était son pote.
Mais c'est dommage, quoi. Tout ça pour sauver un petit connard qui mourra d'un coup d'épée d'âge.
C'est son demi-frère qui tue. D'ailleurs.
Mais quel drôle de jeu. Grosse déception, franchement, c'est justement par rapport à Anya Taylor-Joy et son personnage. D'ailleurs, je trouve que c'est elle qui joue le mieux parce que les autres bof, quoi. Mais du coup, son perso est hyper déceptif de nana. Enfin, juste à la fin, elle finit comme Amidala dans Star Wars épisode 3.
Bah, elle, oui, c'est,
avec
elle
des part, jumeaux dans les bras, ah oui, pendant ça, que son mec se fait tuer sur le volcan. Mais enfin, juste.
Putain, mais c'est grave ça, c'est la fin de Star Wars.
C'est un mix entre le Royaume et Star Wars.
T'as pas entendu quand il dit I got the high ground?
mais même, en fait, ça m'a énervé parce qu'à chaque fois, depuis le début, elle a annoncé qu'elle va briser les esprits pour l'aider. Et effectivement, elle n'est bonne finalement qu'à mettre des champignons dans une soupe. Et en plus, à chaque fois qu'ils font un point sur la situation derrière une maison, tous les deux, en mode bon, t'en es où là ? Alors aujourd'hui, c'est là que tu vas le buter ou pas ? Voilà. Elle lui dit je peux t'aider, je peux t'aider. Il lui dit non, attends. Il lui dit attends tout le temps.
Laisse faire les hommes.
Attends, je vais écrire des lettres avec des gens.
Parce qu'il dit c'est pas cette nuit, c'est la nuit d'après, machin.
Non, mais je trouve qu'elle est vachement. Elle est pas valorisée.
En fait, la première scène dans la ferme, dès que lui arrive dans la ferme, qu'il a son épée, machin, je sais pas quoi, première scène. Il a une occasion de le tuer. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, c'est pas mon destin. Et en fait, à partir de ce moment-là...
Björk a dit la montagne du destin.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Oh putain, il reste 1h30 de film, ça va être super chiant parce que ça va jamais être le moment, ça va être le destin. »
Tu vois, moi, j'aurais trop aimé ça. J'aurais trop aimé que ce soit un bourrin et justement qu'il casse les codes. En fait, ce que j'aurais adoré dans le film, c'est que genre, on ait les oracles et tout, qu'on ait le truc qu'on nous a déjà servi dans d'autres films et tout, en mode « Attention, c'est l'oracle, il a parlé, suis tel lapin blanc, suis tel machin, on s'en fout. » Mais lui, qu'il arrive, il fasse « Je m'en bats les couilles de l'oracle » et bam ouais, tu vois, et que ça parte sur d'autres intrigues.
Et après, il y a des conséquences en mode « T'as pas suivi l'oracle ?»
Oui, voilà. Ça aurait pu être drôle.
Mais
c'est pas ça.
Limite, tu m'aurais fait une fin, tu vois, où en fait il dit ouais vas-y Balek, il ne retrouvera pas, il est en Islande, le temps qu'il retourne en Europe,
même une fois il s'enfuit,
vas-y on y va, et puis en fait que tu nous fasses une fin genre on sait pas si du coup il va se faire venger ou pas, bah, très bien, mais par contre le truc de j'y retourne en brasse coulée,
parce qu'il n'y a pas de commentaire en fait le truc qui me gêne aussi c'est qu'il n'y a pas de commentaire sur l'histoire de la loi du talion, de la vengeance et tout, c'est vraiment ça que les personnages sont pas développés, c'est que en général, tu vois, The Witch, il y a un commentaire. C'est qu'est-ce que c'est de vouloir l'émancipation par rapport à la foi qui te restreint un cadre, et la sorcellerie, bah, c'est une métaphore de ça. Lighthouse, c'est sur la folie et tout ça. Et ben là, c'est rien en fait.
Non,
à quel moment il y a un commentaire sur la vengeance ? Il y a peut-être une esquisse, genre où t'as Nicole Kidman qui fait regarde, moi j'étais une esclave, ton père il me violait et tout. Où tu dis ah,
d'accord,
mais finalement, la moralité, mais ça va
bien. L'a tué. Après, il est quand même triste de l'avoir tué, mais d'un autre côté.
Parce qu'en fait, t'es un mec normal, tu fais. Oh, je savais.
En fait,
sauf que tu voulais la tuer de base.
Mais le commentaire, c'est juste que c'est un connard en fait.
En fait, c'est un connard.
C'est pas The Northman, c'est The Connard.
D'ailleurs,
c'est vrai parce que en fait, ils sont très heureux en fait. Même lui qui était roi juste avant, en fait, on se rend compte que en fait, il y a eu un roi plus fort que lui. Qu'il a destitué de son trône et que donc il a fini dans la ferme, très loin là-bas, perdu dans la montagne. Sauf qu'il est très heureux en fait avec ses deux fils et sa femme. Lui, il arrive, il casse la gueule à tout le monde et en fait il détruit une famille. Et puis à la fin,
je trouve que le personnage le mieux construit, justement, c'est Fjolnir. Parce que, enfin, le mieux construit, oui, en tout cas, le plus équilibré. Parce que autant la mère, son truc de oui, regarde, je suis une esclave, malin, je sais pas quoi, mais bon, juste après, elle dit oui, j'ai demandé de te faire tuer parce que je suis une connasse et en fait, je suis complètement folle, je sais pas quoi, donc en fait, moi, j'y crois jamais, à aucun moment, j'ai de l'empathie pour elle. Par contre, lui, c'est vrai que depuis le début, bah en fait, sens que son frère était abusif, il était amoureux de la meuf, il est allé dans sa petite ferme tranquille, il est avec ses fils, malin, je sais pas quoi, et en fait, c'est le seul personnage pour qui j'ai eu de l'empathie pendant ce film, où à un moment,
il va se servir dans la chambre des meufs pour savoir qui va violer le soir. Hein.
Oui.
C'est vrai, mais elle avait ses règles, du coup.
Ça reste un connard aussi.
Ouais. Non, mais ça reste un connard. Mais
il dit le sang, je m'en bats les couilles.
Ça reste un connard, mais finalement je trouve que sa construction de personnage est quand même un peu plus équilibrée, et même si c'est un connard, parce que tout le monde est un connard finalement dans ce film, je trouve que c'est un connard quand même plus stable que les autres qui sont un coup plus gentil.
Il y a une énorme incohérence parce que Nicole Kidman elle dit oui et en plus ton père il était tout le temps avec ses putes à me tromper.
Oui, alors
en
que
vrai,
lui en fait
il fait pareil
aussi, ouais.
Là, Fjolnir en fait.
Non, je te rappelle qu'elle avait ses règles. Du coup,
oui, mais ses putes à lui c'est mieux.
Ouais. Oui, mais oui, c'est exactement ça. Donc, elle, pour le coup, le personnage de Nicole Kidman, détestable,
il a pas de sens.
Ne marche pas.
Mal joué en plus.
Ah bon? Ah ouais, je l'ai trouvé plutôt convaincant.
Ah moi je l'ai trouvé mauvaise, Nicole Kidman, elle est catastrophique.
Oh là là, c'est gênant quand même la scène.
Je sais pas. Ah quand elle l'embrasse là et tout.
Non, mais même, en fait, juste elle fait trop peur déjà physiquement. Je suis désolée, on doit pas juger ça, mais en fait, là, franchement, la chirurgie, là, c'est chaud quand même.
Mais à l'époque, la chirurgie.
Et en plus, je trouve que non, en fait, j'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est ça qui contraint son jeu ou si vraiment.
Je pense pas, elle est pas bien dirigée, j'ai l'impression.
Peut-être, écoutez, mais je sais pas, en tout cas, oui, en tout cas, au niveau moral, je sais pas où ça va.
Ouais, au final, c'est.
Parce qu'on avait je crois qu'on avait. J'ai du mal à mettre le nom dessus, mais on a vu un autre film au programme où c'était question de vengeance aussi, mais il y avait quand même derrière tout un délire.
Rambo.
Non, c'était pas Rambo, je sais plus c'était quoi. Merde, ça me fait chier, je crois que c'était dans cette saison. Plus,
qu'on a fait
le dernier duel.
Qu'on a fait, peut-être, je sais
pas. Dernier duel, non, il n'y a pas de.
Mais il y a une histoire de. Il y a quelqu'un qui est en mode vengeance, c'est pas John Wick non plus, mais qui est en mode vengeance tout le temps et qui se rend compte en fait que la vengeance c'est pas bien.
Tu veux dire Batman ?
Oui, voilà, c'est Batman, putain. Mais oui, c'est Batman, je suis con. Mais tu vois,
je suis vengeance.
Dans The Batman, à la fin, il y a quand même un retournement de situation, même si
oui,
j'ai trouvé ça un peu éclaté, putain. Où il se dit en fait la vengeance, c'est pas un bon leitmotiv, quoi. Ça va pas donner de bonnes choses.
On a mentionné le dernier duel, je trouve, c'est comme le dernier duel. C'est comme le dernier duel, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu sais pas qui est méchant, qui est gentil. Tu sais pas si Matt Damon est gentil ou méchant. Tu sais pas si. Enfin, Ben Affleck, c'est forcément une ordure. Tu sais pas si. Enfin, voilà. Et en fait, tu sais pas qui fait quoi, pourquoi. Et tu te dis, bon, bah, du coup, j'ai juste vu des mecs se trucider la gueule. Et puis à la fin, il reste personne.
Je suis assez d'accord. Pareil pour l'implication et le côté mal branlé, en fait.
Ouais,
mal branlé. C'est mal branlé, c'est branlant.
Par contre, franchement, tu mets juste les images, tu mets juste les plans stylés et les séquences cool. Tu mets du métal derrière, ça fait un clip de dingue.
Ça fait un clip de ouf.
Ouais, ça fait un clip pour NPC.
Il y a des moments, je croyais que c'était dans un clip de Woodkid.
Test Metal Viking, là.
Ah, là, t'es bon. Hein.
Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il y a quand même des très belles images, très, très belles lumières et tout. Très beau plan de nuit ou de nuit américaine, je sais pas, mais en tout cas, c'était très joli.
C'était espèce d'image bleu marine, là. Ouais, c'est...
Très sympa, mais bon, ça ne fait pas tout, malheureusement. Il aurait fallu soit embrasser à fond le fantastique et puis partir dans un truc épique à la Pirates des Caraïbes, très Robert Eggers, quand même, pour le coup. Histoire de pas trop rentrer dans le Disney, ou bien partir dans un truc bourru à la God of War, ou bien
plus historique,
fais-nous du Hamlet, et puis à la fin, tout le monde est content, quoi. Oui. Là, pour le coup, à la fin, on est en mode je sais pas, allez, let's go, Netflix, Viking,
Ragnar Lothbrok. Parce que tu vois, du Shakespeare dans un autre contexte, moi, je sais pas, là, je pense à Kurosawa tout de suite, parce que Kurosawa a pas mal adapté Shakespeare, notamment dans le
cette samouraï Iran.
Non.
Le château de l'araignée.
Le château de l'araignée, merci. Le château de l'araignée qui est une adaptation de Man Macbeth, tu vois, mais où les personnages sont, existent, quoi. Enfin, tu crois en eux. Là, le problème, c'est que les persos, c'est des caricatures. Ou c'est des coquilles vides. Donc, tu peux pas t'impliquer.
Mais tu peux être une coquille vide. Moi, j'aurais aimé qu'il montre justement que son personnage est une coquille vide et qu'il a perdu toute substance parce que c'est devenu un animal. Sauf que tu le ressens pas, en fait. Tu sais jamais.
Mais dans ce cas-là, il est pas vide. Dans ce cas-là, c'est intéressant.
Oui, c'est ça,
là, il est vraiment vide.
Là, tu sais pas. En fait, je sais pas. J'aurais aimé qu'il soit teubé et qu'il fasse n'importe quoi.
Il y a des tentatives. Tu sais, t'as un moment où tu vois que ses copains vikings, ils vont brûler une baraque où ils ont foutu tous les enfants et les femmes du village en mode va tous les cramer. Et ouais. Où il est juste impassible comme ça, où tu comprends à demi-mot parce que bon, le jeu de
Skarsgård,
c'est pas non plus le meilleur jeu du monde, mais tu comprends qu'il est censé exprimer une espèce d'ambiguïté dans ses sentiments.
Ouais.
Mais c'est jamais développé, quoi.
Bon, bah.
C'est dommage.
Un mot de la fin, c'est que. Voilà.
Bah, belles images ne font pas forcément bon film.
Belles images.
Ne jamais oublier le scénario.
Ouais.
C'est important.
Et puis la substance. La substance qui fait que les choses.
Et la magie.
Apparemment, il n'a pas eu le director's cut sur ce film.
Ah ouais, c'est peut-être ça aussi.
Il a pas non plus dit c'est pas mon film, mais il disait qu'il avait un peu un regret.
Il a joué des coudes, on en parlait dans la BA, mais c'est vrai qu'il a joué des coudes pour exister parce que c'est des grosses boîtes de prod, c'est un gros budget derrière,
c'est
contrairement
pour ça
à ces précédents films.
C'est souvent le cas, hein, tu sais, les films mal branlés, c'est peut-être parce que aussi t'as des.
C'est la faute des studios. Voilà.
Ouais, ils sont derrière, ils font. Non, il faut ça. Et ouais, mais non, ça marche
pas. Et là, tu écoutes, Nicole Kidman, il embrasse le fils, ok. Mais j'ai pas envie, tu fermes ta gueule.
Bon, on verra. De toute façon, on sait que le suivant, c'est Nosferatu, hein, de ce qui était prévu.
Oui.
On verra si ça va tenir la route. Le film, je sais pas trop s'il marche. Là, je sais que le premier jour, il a fait quand même 30 000 entrées. C'est pas dégueulasse comparé à d'autres sorties. Je crois qu'il avait fait avec The Lighthouse, je crois que c'était 6 000 entrées le premier jour. Donc il y a quand même 30 000 en plus.
Je croyais qu'il marchait pas très bien à l'international, The Northman.
Mais bon, tu sens quand même qu'ils ont vachement appuyé sur l'accord de Viking pour.
Oui.
Et ça risque de malheureusement pas faire bon effet. Hein. Ça peut marcher comme ça peut casser. Et je pense pas que. Vu, moi, si je me concentre sur ceux que j'ai vus dans la salle qui étaient en mode ouais. C'est pas de ce à quoi je m'attendais, c'était chelou. Si tout le monde se dit ça, le bouche à oreille va prendre le dessus et
ouais,
The Northman, ça va devenir vite oublié.
The Bidman.
The Bidman. On verra avec Nosferatu. Écoutez, peut-être il reviendra au programme plus tard. Ça, c'était nous ce qu'on en a pensé de ce film. Mitigé, voire même déçu. Qu'en a pensé la presse ? C'est la revue de presse.
La revue de presse.
Kevin a épluché les magazines, les sites internet pour nous sortir ce qui se fait de mieux dans la presse autour de The Northman.
Oui, tout à fait. Et d'abord, les notes. Bah, les notes sont en moyenne plutôt bonnes, hein, parce que sur Rotten Tomatoes, on est sur 89%. Sur Metacritic, on est sur 82%. Et sur le ciné, on est sur 3,4%. Donc, j'ai quand même des bonnes notes. Mais ne vous y fiez pas, les gens se sont arrachés les cheveux. Ils se sont battus, personne n'est d'accord. Mais je vais commencer avec les critiques positives, avec notamment Culture au Point, qui nous dit une œuvre aussi froide qu'incarnée, aussi spectaculaire qu'érudite, aussi exigeante que passionnante. Et la plus nette réussite d'un auteur qui se montre enfin capable de canaliser réellement l'énergie de son cinéma, alors même qu'il s'agit paradoxalement de son film le plus viscéral.
Ok.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Bon, c'est subjectif, je pense.
Non, surtout, enfin,
journaliste a kiffé, quoi. Journaliste a kiffé, mais il y a des
ça veut dire qu'il aimait moins aussi les films d'avant, c'est bizarre.
Oui,
ce que je trouve,
c'est son film le plus viscéral. Enfin, je sais pas, t'en as parlé avec lui.
Il y a quand même un moment, il y a un mec qui rentre et c'est viscéral.
Oui,
quoi.
Je pense que c'est
vrai.
Ouvert au sens littéral.
Je pense que il avait une ouverture. Non, je peux pas en parler.
Non, attention,
je peux pas en parler. Elle Magazine, spécial cast dédié.
Mais c'est qui ? Mais qui est donc ce journaliste ?
Atangi.
Tu voudrais dire qu'on connaît le journaliste derrière cette critique ?
On connaît le journaliste derrière cette critique.
Cette petite
Il nous écoute.
Mais il nous écoute pas du tout. Il s'en bat les couilles de nous.
C'est quoi ? Attends, on va attendre 3-4 semaines. On va lui dire, alors ?
Il est venu miauler. Je peux faire le podcast avec vous ? Maintenant qu'il a un podcast, maintenant qu'il a une équipe, maintenant qu'il a un magazine, monsieur.
Non, il a un magazine, hein ? Et c'est Elle Magazine.
Elle Magazine.
Et pas lui. Alors, que nous dit Tanguy ? Tanguy nous dit un Alexander Skarsgård époustouflant.
Attends, Landy va m'entendre, lui.
Fier comme un cerf, agile comme un loup et puissant comme un ours. Hamlet est en réalité un animal blessé aimant faire couler le sang, et Skarsgård parvient à merveille à se glisser dans la peau de cette bête à qui on ne demande pas plus que de rugir. Une performance XXL qui éclipserait presque celle de ses camarades de jeu.
J'aurais bien aimé voir ce qu'il est en train de décrire.
Bah, après,
il a beaucoup aimé Alexander.
Oui,
il parle de lui. S'il parle juste de son rôle bestial.
Après,
oui,
Tanguy,
il aime
bien les gros biscottos.
Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'espère que tu me citeras l'amphétabéa et que tu mentionneras bien que j'aime les gros biscottos. L'Obs. D'une puissance graphique et d'une force d'incarnation dingue, la mise en scène traduit l'essence de cet univers médiéval en pure matière cinématographique. À mille lieues de bouillie numérique à la Game of Thrones, ça hurle, ça sue, ça saigne sur 2h15, radical et fascinant.
Après, bouillie numérique, moi, la scène de l'arbre...
L'arbre, il est un peu bouilli.
Ouais.
Je suis pas d'accord.
Bah si, arrête. Elle
est bouillie, l'arbre. Hein.
Non, mais les mecs, ils sont en 3D dessus.
Non, mais le mec, il
les reconnaît même pas.
C'est parce que vous avez trop joué à Elden Ring, du coup, vous voyez plus les arbres comme avant.
Mais toi, depuis que t'as mis 5 lunes...
Mais toi, t'as une obsession,
Spider-Man,
hein.
De toute façon.
J'ai jamais mis 5 lunes à Spider-Man.
Arrête.
Il a pris une lune et demie,
Spider-Man. J'ai vu ton joint intime. Non. Arrête.
C'est faux. L'arbre, je comprends
non,
pas.
L'arbre, et puis d'ailleurs, première scène de Drakkar un peu flottant, un peu...
Heureusement qu'il flotte, hein.
Tant mieux, j'ai envie de dire.
C'est plus pratique pour un Drakkar.
Allez, ça se tient.
Ça se tient.
On fait la paix. Allez, serre-moi là. Hop là.
Par contre, à savoir que si tu veux être passager clandestin à l'époque viking, c'est très facile. Hein. Il suffit de nager à côté.
Bah, de faire un petit crawl.
Tu montes, t'es le seul mouillé dans le bateau, personne fait bon.
Ouais, surtout, t'arrives à rattraper un bateau. C'est fou.
Mais ça, il est entraîné, le mec. Mm. Bah oui. JQ, coécrit avec le poète islandais Jón. Je sais pas le prononcer, mais Jón. Le poète islandais.
Jón.
Le film affirme son lyrisme tout en le noyant dans une réalité concrète et suffocante, celle des pillages à foison et d'une masculinité toxique érigée en loi. À ce jour, son film le plus ambitieux, alliant l'épopée grandiose à un mysticisme issu des légendes nordiques, The Northman est une expérience cinématographique d'une fureur telle que l'industrie hollywoodienne en a peu produite ces dernières années.
Mais tu vois, j'aurais aimé être d'accord avec lui.
Mais il n'a pas tort en soi. Hein. C'est vrai
oui,
qu'on
mais
a pas
en
vu
fait,
de beaucoup de films comme ça.
Oui, non, mais carrément. Mais après, j'aurais aimé être 100% d'accord avec lui et que sa critique soit la même que la mienne. Mais
en fait, factuellement, il n'a pas tort. C'est juste que la conclusion n'est pas la même que nous.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et des critiques négatives ?
Bien sûr.
Bien sûr.
Le monde, c'est de la merde.
Ça serait tellement pratique, ça.
Ça serait tellement bien.
C'est de la merde. 8 crottes sur 5.
Une crotte.
Pas logique comme
8
note.
Crottes sur 5. Donc, le monde. On sent chez le cinéaste le désir fou de redonner ses lettres de noblesse au grand spectacle hollywoodien, de le pirater en insufflant l'énergie noire de la radicalité, mais sa mise en scène s'épuise en vaines contorsions.
Je n'ai rien à dire.
Et les cahiers du cinéma rajoutent une couche.
Ah.
Ce cinéma de l'expérience ne sait se justifier qu'en...
Pourquoi c'est terre d'un coup ? Oui, nous sommes les cahiers. Ouvrez vos fenêtres, nous allons parler.
Écoute, ça se dit comme ça. En tout cas, moi, quand je l'ai dit, j'ai ça dans la tête. Ce cinéma de l'expérience ne sait se justifier qu'en rappelant en permanence les règles gouvernant son récit. Son récit, d'où le sentiment non pas d'une pure sensation, mais d'une virée cyclique, d'une progression sisyphéenne qui bute en permanence contre sa propre limite.
Sisyphéenne.
Après, je suis d'accord avec ce qu'ils disent.
Pour le supplice de Sisyphe.
Et tu sais, avec le caillou, il monte le caillou. Oh, il retombe le caillou.
Ah, d'accord. Ok.
En gros, la vengeance, c'est ça, quoi.
Et oui. Ouais. Les Inrecuptibles.
On finit jamais de se venger.
Quand on se met à regarder derrière
plus
là.
Une voix de rocker. Hey
oh, c'est une œuvre. Ok. C'est un rock petit.
C'est un rock.
Ça part en couille.
C'est parti.
Quand on se met à regarder derrière l'impressionnant figure au catch on pad que c'est The Northman. Yeah. On est consterné par la bêtise du film qui n'est finalement qu'une sorte de remake luxueux du déjà raté Valhalla Rising. D'un autre maniériste, Nicolas Winding Refn. Même culte d'un virilisme brutasse, même fascination pour le loi du talion. Et si Eggers finit par pointer l'absurdité d'un tel masculinisme après en avoir célébré les manifestations les plus décérébrées... les plus décérébrées, le film souffre de la comparaison... Attends. Le film souffre de la comparaison avec un autre film médiéval autrement plus intelligent et subtil, The Last Duel de Ridley Scott. Oh yeah.
Oh la vache.
Eh oui.
C'est Martin qui
a écrit.
Dédicace à Martin.
Dédicace à Martin, c'est son film préféré. Il a le poster au-dessus de son lit.
Oui.
Et par contre, j'ai beaucoup pensé forcément à Valhalla Rising, le guerrier silencieux, pendant le film, bah, notamment parce que c'est le même paysage, mais surtout parce que je regrettais de ne pas être devant Valhalla Rising, le guerrier silencieux.
Ah ouais,
qui est un super film de Winding Refn.
Et qui fait des choix plus radicaux, donc ça marche mieux.
Voilà, et qui fait surtout qui crée des personnages qui ont un vrai sens.
Et qui est plus calme.
Ça dépend, parce que quand ça tape.
Ça tape.
Moi, ça m'a donné envie de revoir un film, mais...
Space Jam.
C'est Camping.
Flubber.
Et oui, parce que...
Asterix chez les Normands.
À un moment, il y a un bateau, et dans Flubber... Ouais. Non. Alors, parce que, en fait, je me souviens l'avoir vu quand j'étais petit, et du coup, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça pétait dans tous les sens, mais je sais pas du tout ce que vaut ce film. Le 13e guerrier.
C'est un film qu'il ne faut pas revoir, je
Matt
crois.
Tiernan,
bah, j'ai peur, j'ai pas envie de le revoir, mais ça m'a donné envie de le revoir.
J'avais pas aimé.
Parce qu'il y avait des Vikings.
Moi, j'avais un pote qui me tannait, il faut que tu vois le 13e guerrier. Déjà, quand tu me tannes comme ça, que tu montes le film.
En fait, j'en ai un bon souvenir du début, de tout le côté, un
j'ai
peu,
bien
genre
aimé,
les
je crois,
Vikings et
hein,
tout.
À l'époque, hein.
Et par contre, la fin, quand il y a des cannibales partout, là.
Ouais, c'est bizarre.
Comme il apprend la langue viking au coin du feu.
Ouais, ça c'était. Putain, la scène est restée en mémoire.
Mais c'était, par contre, je crois que c'était très fidèle à historiquement parlant, quoi.
Le
13e qui arrive.
Ah ouais,
ouais. Puis c'était pas un des derniers Mac Tiernan aussi, avant qu'il parte en couille?
Non, il est pas parti en couille, il est parti en prison.
Oui. Est-ce que c'est fini pour
non,
les...
Non, je finis avec Libération, qui ont vraiment pas aimé, parce qu'ils nous disent, c'est très court, un film impérialement creux, con, tonitruant, dépit du bon sens, avec un alignement de scènes, what the fuck.
Ah ouais, ils ont dit con.
Ils ont dit con.
Ils ont dit con.
Ils ont dit con.
C'est des rebelles. Quoi.
Ils ont dit con.
On peut dire con. Ouais, bah, je ne savais pas qu'on pouvait dire con.
Bah, c'est sûr que tu peux dire con. Non, attends, ils sont de gauche, ils ont le droit.
Si ton rédac chef, il dit que tu peux dire con, tu dis con.
Ils sont vraiment libérés à Libération.
C'est les rois du fait-on titre.
Tanguy, il a pas dit con.
Non, il est chez elle, on dit pas con.
Ah oui.
Tanguy a dit j'adore son côté bestial et ses pectoraux. On l'embrasse. Merci Kevin, merci pour la revue de presse. On a eu tout ce qu'il fallait, hein. On a fait le tour. C'est décevant quand même, hein, pour un film qu'on attendait depuis.
Bah, c'est le premier gros SDA.
Depuis longtemps, et puis c'était un des films les plus attendus de l'année.
On attend au tournant le prochain Robert Eggers.
Ah, Nosferatu.
Ouais, on verra bien. Bah écoute, ça marque la fin déjà de nos matchs.
J'espère qu'on se revoit très vite.
On va se revoir très vite et puis on va annoncer ce qu'on va match retourner, nous, la semaine prochaine. Oh. Dans la conclusion.
You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional.
Voilà, c'était le match retour de The Northman, de Robert Eggers. Faites-vous votre avis, hein. Nous on vous donne notre avis, mais vous savez que l'avis le plus proche de vous-même, c'est le vôtre. C'est beau, vrai. Ça comme phrase, hein. Je viens de l'improviser.
Je sais pas si c'est beau, mais c'est vrai.
La semaine prochaine, sur quel film on va critiquer, retourner, match retourner les choses? Dites-le-moi, j'ai oublié.
On se match retournera les tripes.
Ah oui, les crimes du futur. On ira faire un petit tour du côté de la croisette avec les crimes du futur de ce cher David Cronenberg qui revient après 8 ans d'absence.
Les Cronenberg
sur les bords du
je sais pas quoi
il Vigo. Et Léa
il
c'est
il fait des trous dans des corps humains,
voilà. On va raccrocher.
Ouais, je crois
on va dire au revoir.
Coupe maintenant.
On va faire ça. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Vous savez, Spotify, Deezer et compagnie. Les réseaux.
Facebook, Instagram,
Twitter, TikTok, c'est faux.
Vous abonnez. Et puis voilà, le site www.fetaba.fr. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Au revoir. Et puis ciao. Et puis bye, on remonte sur notre dracar. Et puis on y va.
C'est parti.
Attendez, le vent. Waouh!
C'était donc ça son pouvoir!
Il est trop fort!
Il est trop fort! Au revoir tout le monde, des bisous!
Arrivederci! 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 Arrivederci.